Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Aujourd'hui, des impressions, des émotions, dans notre monde déserté par l'idée même de contemplation. Rendez-vous compte. Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour Didier.
Nicolas, alors tu es non pas philosophe, quoique, mais artiste peintre, c'est-à-dire porteur d'un regard très personnel sur le monde, un regard personnel qui fera l'objet d'ailleurs de notre entretien. Tu es né à Paris, mais tu vis dans le Val d'Oise. Tu trouves ton atelier
à Saint-Leu-la-Forêt.
Bien entendu.
Voilà.
Un invité de plus. Voilà. Alors, pour présenter un artiste peintre, en général, on le situe par rapport au grand courant créatif de notre histoire, académique, romantique, cubiste, surréaliste. Tiens, d'ailleurs, l'expo à Beaubourg vient de se terminer. Ou impressionniste, c'est ce dernier courant qui a déterminé ta vocation, ta passion, je dirais, à partir d'un reportage que tu as vu à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que c'était comme reportage?
Alors, bon, bien évidemment, le souvenir, c'est un peu altéré, un peu effacé, mais j'en garde quand même une certaine précision. C'était un reportage sur, bien sûr, Claude Monet, qui retraçait évidemment sa trajectoire artistique et son évolution. Et je me souviens encore de la fin du reportage où défilaient des panoramiques sur les toiles des nymphéas. Et j'étais en train de réaliser quelque chose d'important que j'ai mesuré finalement bien plus tard, c'est que le monde ne nous est donné qu'à voir que par une perception, par un prisme qui est propre à chacun. Et que du coup, on peut représenter le monde de plein de façons différentes. Et l'impressionnisme, eh bien, c'était comme un voile qui s'ouvrait ou qui s'enlevait sur une façon de montrer les choses, de montrer la nature, de montrer les choses simples avec un réalisme, une authenticité qui m'a vraiment transpercé à l'époque. Et j'ai réalisé qu'en fait, pour représenter le monde, on n'avait pas besoin d'être dans la fidélité absolue. C'est pas une photo, mais bien au contraire, on pouvait avoir des émotions simplement avec des touches de peinture qui se juxtaposent et qui, par un rythme, s'assemblent et forment un mouvement.
Voilà, c'est dans ce sens que, sur ton site internet, tu affirmes que l'impressionnisme irrigue encore ta peinture parce qu'il a donné naissance à une peinture visionnaire et intemporelle, sinon d'une absolue modernité. Quand on parle des impressionnistes, on pense pas forcément que c'est encore moderne et d'actualité. Mmh. Or, ça l'est.
Oui, ça l'est. En fait, je pense que c'est une question de regard et de point de vue. L'impressionnisme, qui fête ses 150 ans, reste une peinture extrêmement appréciée. Et je pense qu'il y a une vraie raison pour cela, à savoir, d'en parler, le regard sur le monde et la vivacité et aussi les sujets qui sont traités, à savoir une rivière reste une rivière. En 1850, en 2024, ça reste quelque chose d'assez identique. Le mouvement des arbres et des feuilles dans le vent, le soleil qui vient se poser sur un chemin, un rocher ou sur une maison. Et finalement, l'émotion qu'on peut ressentir aujourd'hui, je pense qu'elle était assez semblable à ce que pouvaient ressentir les peintres de l'époque.
En portant les embruns salés dans son sillage, le vent du sud souffle et cingle mon visage. Sans cesse les vagues avancent, puis repartent suivant leur danse, déposant un varech odorant sur la plage envahie de cormorants. Je peins la vie et les saisons. Je chante mes peines, mes frustrations, par petites touches comme un artiste impressionniste de la chanson.
Voilà, nous sommes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Nicolas Martin, peintre impressionniste mais néanmoins ultra contemporain, on y reviendra.
J'ai une forme, je pense, de connexion commune lorsqu'on regarde un tableau impressionniste, même si le tableau a 150 ans, il n'y a pas d'appréhension ou du moins de difficulté à la compréhension pour ce tableau. C'est une peinture accessible, nul besoin de connaître le contexte socio-historique, culturel de l'époque. C'est un plus évidemment, mais voilà, l'accessibilité de cette peinture touche, je pense, les gens. Et c'est pour ça qu'on a évidemment encore une foule qui se presse pour l'exposition Caillebotte au musée d'Orsay actuellement. Alors que bon, les choses ont légèrement changé depuis, mais reste quand même assez identique.
Alors c'est pour ça qu'une grande partie de ta production est dédiée à des toiles résolument impressionnistes, faisant la part belle surtout au paysage. Mmh. Et on pourrait presque parler de réécriture, entre guillemets, de thèmes traités, tu viens de le dire, par les impressionnistes qui ont, à leur époque, aimé et sublimé notre Val d'Oise. Je pense par exemple à une de tes toiles qui s'appelle tout simplement « Au vert », hein, qui date de 2020, où on voit un champ de blé avec une sorte de gros nuage qui contient peut-être des corbeaux et qui renvoie peut-être au champ de blé aux corbeaux de Van Gogh. Oui. Est-ce qu'il y a... Voilà. Et puis aussi une autre de tes toiles qui s'appelle « Vue des bords de Seine », qui date de 2023 et qui m'a fait penser, moi, à celle de Daubigny, bord de l'Oise. Ou encore « Régate fin de journée » de 2022 et qui renvoie « Régate à Argenteuil » de Claude Monet, justement. Voilà, donc comme tu le disais, des thèmes communs, des choses, des émotions qui n'ont pas changé depuis.
Absolument. Tu parlais de réécriture tout à l'heure. Quand on se balade dans les champs à Auvers, vous allez voir ces corbeaux, vous allez voir ces champs, vous allez voir ces chemins qui ont été peints par Van Gogh à l'époque. Et ça n'a pas changé. Donc ce côté, cette terre impressionniste, le Val d'Oise, c'est toujours très très présent. Ça permet de se reconnecter. D'ailleurs, on voit beaucoup de touristes qui vont sur la tombe de Van Gogh, mais aussi visiter les environs. Et je pense qu'on a une authenticité ici comme nulle part. Et moi, ça m'inspire. Et la peinture par laquelle j'ai commencé, à savoir l'impressionnisme, et que je fais toujours, bien évidemment, permet de retranscrire pour moi la meilleure manière ces sensations, ce mouvement, par justement les touches, on en parlait tout à l'heure, la juxtaposition des couleurs, le rythme du mouvement. Ça me fait penser à un peintre qui s'appelait Ingres, bien évidemment antérieur à la partie phase impressionniste, qui disait, alors lors de l'apparition de toiles avec certaines touches, il disait la touche, c'est la maladresse de la main ou c'est l'abus de l'exécution.
Belle formule.
Peut-être belle formule. C'était une compréhension de l'œuvre et de l'art à une certaine époque. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'a pas compris. Parce que bien au contraire, la touche permet de retranscrire quelque chose d'autre qu'une simple toile lisse. Et donc je crois qu'en fait, finalement, la lecture... qu'on a aujourd'hui doit toujours être mis en perspective avec la compréhension d'une certaine époque. Et par rapport à la question que vous me posiez, l'impressionnisme aujourd'hui est apprécié pour certaines raisons, alors qu'à l'époque, il ne l'était pas forcément.
Au contraire.
Au contraire.
D'ailleurs, le mot impressionniste est plutôt, au départ, quelque chose de très négatif employé par un journaliste qui ne les appréciait pas. Alors, est-ce que tu vas sur place, donc ? Est-ce que tu vas à Auvers, dans les champs, pour peindre avec ton chevalet, comme
oui.
eux ?
Alors, ça peut m'arriver, bien sûr. Aujourd'hui, on a des moyens techniques qui permettent évidemment de capturer un instant. L'impressionnisme vise à saisir une émotion du fugace. Aujourd'hui, voilà, la possibilité de prendre une photo, rentrer chez soi et ensuite avoir saisi ce moment éphémère. Néanmoins, ça reste pour moi quelque chose toujours d'insatisfaisant, insuffisant. Le meilleur appareil photo, c'est l'œil et la mémoire, car une peinture est une retranscription d'émotions ressenties sur le lieu, alors qu'une photo bien souvent décevante sur un appareil photo ou un iPhone va pas permettre de transmettre ces émotions. Du coup, le meilleur moyen, je crois, que c'est d'aller sur place et d'y retourner. Claude Monet allait à différentes heures de la journée pour voir les différents ensoleillements sur le motif. Pour ma part, c'est des lieux que je connais, bien, sur lesquels je vais me balader avec mes enfants ou tout seul. Alors oui, il peut même arriver de poser mon chevalet, mais le confort et le luxe me permet aussi de peindre et de finir les toiles à mon atelier.
Alors, nous sommes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Nicolas Martin, peintre impressionniste, mais néanmoins ultra contemporain, on y reviendra. On écoute le premier titre choisi par Nicolas, Reptilia, du groupe The Strokes. Alors, je dois dire que j'étais un peu surpris de ce titre qui est quand même particulièrement rock, on va dire, pour quelqu'un qui se réclame des impressionnistes. Comment ça se fait ?
Ah oui, je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel aujourd'hui en 2024 à être le produit d'une pluralité d'influence. Pourquoi Reptilia ? Il y a certains morceaux qui nous accompagnent un peu dans la vie et qui nous suivent, qu'on va écouter beaucoup à certains moments, un peu moins à d'autres. Reptilia, évidemment, c'est, il faut recontextualiser, c'est le rock américain des années début 2000. On les avait appelés les sauveurs du rock à l'époque. Bon, c'est plus tout à fait le cas. Pour moi, cette musique, bien sûr, me rappelle une certaine époque, on va dire mon adolescence, ma jeunesse, mais surtout la manière dont la musique et la construction, les lignes de ce morceau me touche et me parle, parce qu'en fait, la construction d'un morceau de musique peut ressembler à la construction d'un tableau. Un tableau répond à une certaine logique, une certaine cohérence. Il y a un mouvement, un rythme, des cassures pour de nouveau mieux repartir. Les lignes de basse sont des lignes en contrepoint qui peuvent venir générer une tension. Et j'aime, en l'occurrence dans le morceau Reptilia, cette tension continue, tant d'un point de vue instrumental que vocal, sur... du début jusqu'à la fin, on a une forme de brutalité, comme on peut avoir une forme de brutalité aussi dans le geste, dans la peinture, lorsqu'on veut transmettre certaines émotions. Parfois, c'est un peu dans l'adversité ou dans l'affrontement avec une toile qu'on peut faire sortir des choses et voir ce que finalement le résultat de tout ça. Et à titre d'exemple, à l'époque, on n'avait pas accès. Maintenant, bien sûr, les producteurs et les monteurs de cet album, ce morceau, ont rendu public ou accessible les différentes lignes, la ligne de voix, la ligne de basse, la ligne de guitare. Et en fait, si on isole la ligne de voix, on peut s'apercevoir que c'est quasiment inaudible, parce que c'est extrêmement forcé. La voix est saturée, la voix est compressée. Alors c'est ce qui était la particularité des Strokes. Mais c'est surtout qu'on comprend que, indépendamment, chaque ligne n'a pas de sens en soi, mais que c'est la construction et l'assemblage qui rend un effet final. Et en peinture, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous prenez une touche de peinture, bon, ça peut être sublime, mais comme ça peut ne rien signifier. Par contre, si vous prenez du recul et vous voyez un ensemble, là, ça a du sens. Et il y a beaucoup de parallèles entre, bien évidemment, la musique et la peinture.
On retrouve dans ce rendez-vous compte Nicolas Martin, peintre valdoisien, qui fait revivre l'impressionnisme à travers une partie importante de son œuvre. Mais alors Nicolas, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'être inspiré à la fois par l'impressionnisme d'une absolue modernité et en même temps par un retour au mythe antique dans la deuxième partie de ton œuvre ?
Pour moi, la peinture, je vois ça comme un art exploratoire. Je crois que le jour où je vous dirais... c'est bon, j'ai trouvé, j'aurais l'impression d'être arrivé au bout d'un chemin, mais ce sera une erreur. Je pense qu'il faut toujours chercher. Et ce travail d'exploration prend différentes formes. Alors bien évidemment, l'impressionnisme, ça a été la première technique, la technique par laquelle j'ai commencé, qui m'a semblé la plus accessible, la plus abordable. La représentation d'un monde, de paysage. J'avais de quoi m'appuyer en termes d'histoire de l'art, en tout cas. Sur mon travail, j'essaye aussi d'aller chercher des choses un peu différentes. Le travail sur le corps, la plastique du corps, l'intensité des formes, la manière dont, justement, ces corps interagissent avec leur environnement, ce qui les entoure. Et c'est vrai que les figures mythologiques sont des super sujets pour pouvoir mettre en avant cela. D'une part, parce qu'évidemment, il y a un côté mythique, il y a un côté imaginaire. Donc du coup, il n'y a pas de barrière en termes de réalisme. Je suis assez libre de faire ma vision, ma propre vision des choses. Et puis aussi, bien sûr, on représente des sujets mythiques, mais ça pose aussi la question du mythe en tant que tel et de l'objet en tant que tel, à savoir un tableau, à partir de quand est-ce qu'il devient mythique ? Est-ce que c'est le sujet ou est-ce que c'est l'objet en tant que... En tant que toile elle-même, par exemple, certaines icônes, certaines stars de l'art, comme les tableaux les plus connus de Van Gogh ou Mona Lisa, sont devenus des mythes eux-mêmes. Ces objets sont devenus des mythes. Donc à partir de quand est-ce que une toile est un mythe en tant que telle, en termes de sujet ou en termes d'objet? Et pour ma part, la manière dont je vais pouvoir mettre en mouvement la plastique des corps dans leur univers va me permettre de générer un lien entre la proximité et le réalisme du corps, qu'on peut comprendre, qu'on peut voir, la musculature, et aussi une certaine distance par rapport au sujet, et par rapport à l'époque, par rapport au thème, et à l'imaginaire. Et pour moi, j'ai préféré une vision transversale et une lecture transversale plutôt qu'une lecture juste analytique d'un tableau avec un sujet à un moment donné. Je préfère finalement une intemporalité dans ma vision.
J'ai liquidé Oedipe d'un coup de Winchester. Je l'avais pris en grippe, je voulais le faire taire. Maintenant on me recherche dans la psychanalyse. Des chasseurs de déprime, je suis la marchandise. Les prophètes prédisent, j'étais dans de sales draps. Je jouais à Maurice, ma mère m'ouvrit les bras. Maintenant on me recherche dans la psychanalyse. Des chasseurs de déprime, je suis la marchandise.
Voilà, nous sommes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte où nous recevons Nicolas Martin, peintre impressionniste mais néanmoins ultra contemporain, on y reviendra. Avec toi, on a affaire à deux univers totalement opposés, format paysage moyen pour les toiles impressionnistes, plutôt petit format on va dire, avec bien sûr la représentation de la nature, des couleurs, les plutôt chaudes. Mais la deuxième partie, c'est ces personnages de la mythologie dont le format est portrait, vertical, de grandes dimensions, très grandes dimensions, 80/116 par exemple, voire encore plus grand, avec des personnages cadrés très 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 serrés, qui sont un peu à l'étroit dans leur cadre, et puis souvent de profil, des hommes presque nus, sur la défensive, les muscles tendus, un fond froid, une atmosphère glaciale. Alors finalement, cette vision libre et renouvelée de ces mythes, c'est des personnages à la fois anonymes ou figures mythologiques, héros sublimes ou pathétiques, jamais ordinaires de nos imaginaires. Une vision quand même assez tourmentée de Virgile, Hector, Oedipe, personnage de tragédie de toute façon.
Oui, personnage de tragédie. Alors, ça ne répond pas forcément à un calcul de ma part. Là, je prends, on va dire, des sujets comme des motifs, comme des sensations pour exprimer des émotions. Alors, par exemple, la figure d'Antigone, voilà, elle est complète, elle est en mouvement. Elle est, on sent qu'on est sur quelque chose, un peu comme de l'impressionnisme, quelque chose d'éphémère. On vient capter une sensation. Par contre, on va être plutôt sur du statique pour Hector, avec une vue un peu en contre-plongée qui va permettre de représenter une forme de dimension, de musculature et aussi un côté inaccessible. Oedipe, de la même manière, avec un côté très décharné. Donc en fait, j'essaye vraiment d'utiliser le support pour véhiculer un maximum de sensations. Et ces sensations, ce qui est très intéressant, lorsque je fais des expositions, où il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent... Voilà, moi, devant ce tableau, je ressens ça.
C'est très fort.
C'est très fort. Et d'autres qui vont dire, alors, pas du tout. D'ailleurs, ce tableau me plaît beaucoup. Et en fait, ça peut diviser et être très tranché. Et finalement, j'aime bien ça. Et on a souvent envie de me demander qu'est-ce que j'ai voulu dire derrière ou quel était mon sentiment à ce moment-là. Je leur dis, mais c'est pas ça qui compte. C'est votre sentiment. C'est un peu un tableau est une forme de miroir de sensations et d'émotions et de vécu. Et chacun l'interprète avec son propre prisme et on peut avoir vraiment des divergences très marquées.
Alors par exemple, Antigone que tu signalais, effectivement, elle a son corps qui est malmené, on va dire, elle est tout tordue. Enfin bon, évidemment, c'est un personnage tragique qui va mourir, hein, bien sûr. Ouais. Alors je signale que sur ton site, on peut entendre un extrait de c'est la pièce de Jean Anouilh, j'imagine, hein, voilà, c'est ça, mise en voix par quelqu'un que tu connais bien, Cathy France.
Oui.
J'ai reconnu sa voix.
Oui,
elle interprète très bien le texte.
Mon épouse, pardon. Au-delà du projet,
elle est professeure de français.
Je pense que voilà, elle a une très bonne connaissance en tout cas de ce domaine et aussi elle a une intensité, une émotion qu'elle arrive à transmettre. C'est quelque chose que j'essaye de développer du coup en partenariat avec Cathy France, de manière à dire que finalement un tableau, on est sur du visuel, mais on peut très bien y ajouter du contenu, du texte, des références. C'est au carrefour de plein d'art, de plein d'informations. Et je crois que aujourd'hui, même sur mon site Instagram, je mets en musique chacun de mes tableaux. Et ça pourrait être très bien une musique rock. J'aurais très bien pu mettre une musique rock sur Antigone. Oui. Disons que je pense qu'on peut donner aujourd'hui, en 2024, une profondeur et une dimension différente à un simple tableau. Et ça peut être aussi l'objet d'expositions à thème. Mêlant, pourquoi pas, une projection de tableau avec de la musique associée. Et on en reviendra peut-être tout à l'heure. J'essaye de mettre en place aussi des programmes et des concerts classiques en parallèle de mes expositions.
Voilà, on va y revenir dans quelques instants. Oui, en fait, la peinture comme spectacle total, on pourrait dire. Bien sûr, quand on voit d'autres toiles, notamment celles qui représentent des femmes, on peut retrouver des influences. Hein. Par exemple, la ballerine, on pense à Degas, qui représentait beaucoup de jeunes femmes danseuses. L'allégorie, qui est très très belle, mais qui me fait penser, moi, au penseur de Rodin, un petit peu la même position. Et quant à la toile qui s'appelle tout simplement Elle, une grande toile aussi, qui est un peu de Picasso, parce qu'il y a un petit peu, presque un côté dans la façon de représenter les corps, les couleurs, etc. Mais alors, Balzac a inventé le retour des personnages dans la comédie humaine. Nicolas, je crois que tu as inventé le retour des personnages dans tes peintures. Et là, il y a des petits secrets, non, dans tes personnages qu'on retrouve. D'ailleurs, oui. Beaucoup de tes toiles, de tes portraits, portent un prénom. Voilà, est-ce que tu peux nous parler? Alors, par exemple, il y a le couple Roméo et Juliette. Alors, effectivement, c'est un peu tragique, là, mais ils sont magnifiques. Hein. Mmh. Et puis, par exemple, il y a une toile qui s'appelle Georges et Marie, une autre qui s'appelle Hassan, une autre, peut-être une de mes préférées, qui s'appelle Angèle. Alors, qui sont-ils ces personnages?
Ces personnages, je suis en train justement de les présenter en fait dans ma démarche artistique, un peu comme des personnages qui pourraient appartenir à un roman, à des séries de nouvelles. Ces personnages sont des trajectoires de vie qu'on nous donne à voir de manière
ponctuelle, on va dire.
Ponctuelle, exactement. Et bien, je suis en train de les mettre en scène. Donc là, c'est un peu une forme de présentation où on commence à comprendre qu'il se passe quelque chose. Par exemple, Georges et Marie, on va retrouver Georges dans un autre tableau déjà.
Ça sera sous le même prénom ou un autre prénom?
Il s'appellera Georges, mais peut-être qu'il sera avec une autre femme. Voilà. Donc je suis en train de construire, je tisse en fait une histoire. Et je ne sais pas encore, bien évidemment, la suite de l'histoire. Où, pour l'instant, voilà, c'est une présentation. Et je crois que donner du sens, donner du lien à une œuvre, c'est aussi important parce que ça donne une trajectoire. Et il me semble que voilà, c'est une démarche assez personnelle, assez singulière, qui est venue naturellement en créant petit à petit ma galerie de personnages, en me disant finalement, il y a ce qui est dit à voir dans un tableau, mais il y a bien évidemment tout ce qui est autour et tout ce qui n'est pas dit et qu'on laisse à chacun la possibilité d'imaginer. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, le non-dit, l'entre les lignes, que finalement le descriptif.
Alors justement, Georges, je l'ai retrouvé sur une autre toile qui s'appelle Georges et Ida.
Oui.
qui alors là me fait penser manifestement au peintre Edward Hopper, hein, qui a représenté des scènes intimes vues vraiment de très près des personnages. On peut se penser à sa fameuse Night Hawks, ou bien une autre toile qui m'a fait penser à Hopper de chez toi, une toile qui s'appelle La Cavale et qui m'a renvoyé à cette toile célèbre de Hopper qui s'appelle Gaz, où on voit une station service un petit peu en plein désert. Et là, toi, tu représentes le pompiste, voilà. Donc Hopper, c'était quelqu'un qui il voulait toujours peindre le portrait d'une solitude irréductible dans la multitude, hein, donc le personnage seul au milieu des autres. Et il disait aussi que ce qu'il cherchait à peindre, c'était lui. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu cherches à te peindre à travers Georges, à travers Hassan, à travers Angèle?
Alors peut-être, il faudrait que je fasse une analyse là-dessus.
Ça tombe bien, on a Hélène qui est aussi notre spécialiste.
Très bien.
Qui fait nos chroniques.
Voilà. Très bien. Non, alors, probablement qu'effectivement, on essaie de raconter une partie de son histoire, dans son histoire quand on essaie de dresser différents portraits. Et puis aussi, j'imagine qu'un écrivain, lorsqu'il va raconter une histoire, peut-être ça, c'est une partie de lui, mais il y a aussi complètement une partie, bien évidemment, de fictionnelle. Et souvent, il y a des gens qui me disent « Oh là, quand vous avez peint cette toile, vous deviez être très déprimé. » Non, en fait, non. C'est un travail. C'est, bien évidemment, on fait appel à certaines émotions, et on a tous, chacun, tout un tas d'émotions. Par exemple, Hopper, l'esthétique... évident, de la mise en scène des personnages. C'est pas un hommage, mais on va dire une forme de continuité là-dedans.
Un peu comme avec les impressionnistes, peut-être.
Quelque part. Mais c'est pas quelque chose de calculé, c'est une forme d'héritage. Par exemple, dans le tableau que vous citiez, Georges et Ida, donc le fameux Georges, il n'apparaît pas sur le tableau.
Non.
Vous êtes, en fait, à la place de Georges, parce que on voit simplement la main qui vient se poser sur la main de Ida, et du coup, vous êtes acteur du tableau. Et pour moi, c'est extrêmement important d'inclure le spectateur, le regard, comme un acteur, et un tableau n'existe pas s'il n'est pas donné à voir. Et c'est la relation et le lien qu'il y a entre cet objet et chacun qui a du sens. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et que quelque part, on est peut-être tous un petit peu Georges, où on peut s'incarner dans certains personnages.
Nous sommes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte où nous recevons Nicolas Martin, peintre impressionniste et contemporain. On écoute le deuxième titre choisi par Nicolas. Alors là, ça n'a rien à voir avec le premier. Suite en La majeure, Gavotte et Si double de Jean-Philippe Rameau. Alors, pour terminer, parce que notre émission est pratiquement finie, peut-être, Nicolas, tu pourrais rappeler une expérience originale qui a eu lieu récemment à l'Isle-Adam, qui s'appelait « Impressionnisme et résonance ». Alors, pourquoi résonance ?
Eh bien, parce que, comme je vous expliquais un peu tout à l'heure, aujourd'hui, on est au croisement des arts, et je crois que la peinture peut vraiment résonner avec la musique. Il y a tellement de points communs entre musique, peinture, ne serait-ce que dans les termes, les accords, les gammes, les tons, les couleurs, les variations. Et c'est un joli programme qu'on met en place et qui fait écho, du coup, avec des tableaux autour et des concerts assez intimistes avec une formidable pianiste, Alissa Zubritsky.
Voilà, qu'on recevra, qui fera l'objet d'une émission émission spéciale un petit peu plus tard dans l'année. Ouais. Voilà, on est obligé de conclure. Alors, Nicolas, comment peut-on faire pour te joindre si on veut découvrir mieux ton œuvre et voir acheter des tableaux? Comment on fait?
Alors, tout simplement par le site internet, que peut-être vous aurez la possibilité de mettre sur le site internet, sur votre site de la radio, où vous pouvez me contacter directement. Vous pouvez voir tous les tableaux, l'ensemble des tableaux est sur le site, et bien évidemment, très simplement, en me contactant, on peut s'arranger pour pouvoir mettre en place un rendez-vous si vous souhaitez acquérir une toile, et bien évidemment me retrouver dans les différents salons et expositions que je mets à jour sur mon site.
C'était Didier, vous retrouverez le podcast de l'émission, comme toutes les autres, sur le site d'IDFM. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, culture, jeunesse, solidarité, citoyenneté, environnement, on fait le plein dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment.